1 Timothée 5, nous relirons à partir du verset 3. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. Or, celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et dans les prières nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Que la veuve soit inscrite, n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Mais refuse les veuves qui sont jeunes, car quand elles s'élèvent contre le Christ en s'abandonnant à leurs désirs, elles veulent se marier, étant en faute, parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et en même temps, elles apprennent aussi à être oisives, allant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi causeuses, se mêlant de tout, disant des choses qui ne conviennent pas. Je veux donc que les jeunes se marient, aient des enfants, gouvernent leur maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause des mauvais propos, car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves.
La dernière fois, nous avons vu le début de ce chapitre 5, en particulier les cinq premiers versets. Nous avons rappelé que les chapitres 5 et 6 nous présentent différentes relations qu'il y a dans la famille de Dieu et dans la maison de Dieu. Nous en avons compté 12, 8 dans ce chapitre et 4 dans le prochain. Le but de ces chapitres, c'est de nous présenter le témoignage public de la famille de Dieu vis-à-vis du monde. Ce témoignage extérieur, il est vu à travers les relations à l'intérieur de la maison. Et ce qui prime dans ce témoignage, c'est le vrai amour entre les membres de cette famille. Nous avons vu les premières relations. Ne reprends pas l'homme, rudement l'homme âgé. Le fait de commencer comme cela, nous avons dit, donne le ton pour la suite. Lévitique 19 nous dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Nous trouvons aussi, honore ton père et ta mère. Nous avons rappelé que l'amour n'agit pas avec inconvenance, mais avec tact et délicatesse, avec sagesse, surtout devant celui que nous devons considérer et honorer. Au verset 3, nous voyons que les veuves ne doivent pas être oubliées, ou négligées. Jacques 1 nous dit de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Nous voyons ici trois types, si nous pouvons dire, de veuves. Nous voyons les veuves jeunes qui sont mortes en vivant. Elles perdent leur vie dans l'oisiveté, au verset 6 et au verset 13. Les veuves qui ont des enfants, nous voyons que les proches, la famille, est spécialement encouragée à prendre soin d'elles. Et enfin, les veuves qui sont vraiment veuves, sont les veuves isolées ou âgées qui ont un témoignage qui ont eu un témoignage d'avoir marché toute leur vie dans les bonnes œuvres. Verset 10.
Versets 9 et 10 nous présentent des veuves qui ont fidèlement servi le Seigneur pendant de nombreuses années. Nous trouvons 8 caractéristiques de ces veuves et nous voyons que chacun des caractères, le verbe est au passé et donc il s'agit bien de femmes qui ont été mariées et peut-être que leur vie a été avec leur mari à ce moment-là, mais dans le couple, nous voyons que ces femmes qui sont veuves maintenant ont très fidèlement servi le Seigneur. Et quand nous examinons les 8 caractères, en réalité, si on enlève l'âge, il y a 7 caractères. Nous voyons que c'est une vie tout à fait remarquable et digne de louange. 60 ans, dans ce temps-là, c'était sans doute un âge avancé pour l'époque. Et on pensait que l'espérance de vie à ce moment-là était relativement courte par rapport à aujourd'hui. La première caractéristique de ces veuves, bien c'est la fidélité. Fidélité à leur mari et dans le lien conjugal. Et ce qui est souligné peut-être avant, eh bien que ces veuves ont marché dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, elles ont été actives dans leur vie avec l'approbation de Dieu. Une vie active pour Dieu. Des servantes, de vraies servantes. Et nous voyons que à la fin de cette énumération des 8 caractères de ces veuves, il est parlé encore de bonnes œuvres. Et nous voyons que leur vie, eh bien, c'est comme si elles avaient commencé par des bonnes œuvres et elles avaient fini par de bonnes œuvres. On peut ajouter que les deux termes grecs qui concernent ces bonnes œuvres sont deux termes qui sont différents. Le premier terme qui nous parle de ces veuves et qui ont eu ces bonnes œuvres pour Dieu nous parle d'un état moral intérieur. Et ces veuves, quand elles faisaient ces bonnes œuvres, c'était un bon état moral envers Dieu et devant Dieu. Et à la fin de cette énumération, le terme de bonnes œuvres est différent. Il s'agit plutôt des œuvres qui sont vues publiquement. C'est-à-dire, par exemple, faire des aumônes, visiter des malades, etc. C'est-à-dire, donc, nous voyons que le travail, le service de ces œuvres, de ces veuves, ont été d'abord en relation avec un état moral qui convenait devant Dieu. Et sans aucun doute, elles se laissaient diriger par Dieu pour ses bonnes œuvres.
Que les femmes pour servir Dieu, le Seigneur, on peut lire ce qu'on a bon lu déjà, 1 Timothée 2, versets 9 et 10.
De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie. Non pas de tressés d'or ou de perles ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu.
Les bonnes œuvres qui ont été citées dans 1 Timothée 2 correspondent aux premières bonnes œuvres que nous trouvons dans ces versets 9 et 10 du chapitre 5. Un autre caractère de ces veuves qui ont été fidèles à leur mari, et c'est qu'elles ont élevé des enfants. Il n'est pas dit qu'elle a élevé ses enfants, mais elle a élevé des enfants. Il semble que ces veuves ont élevé leurs propres enfants, et peut-être aussi, semble-t-il, c'est suggéré par le texte, elles ont aussi élevé d'autres enfants. Est-ce qu'elles ont été des nourrices pour d'autres enfants? C'est peut-être ce qui est arrivé. Il est bon sans doute de s'arrêter sur ce que c'est que élever des enfants ou élever ses propres enfants. Cela, bien sûr, ça va au-delà de donner une instruction, un enseignement à des enfants. Élever des enfants, c'est sans doute les accompagner à chaque âge de la vie, progressivement, alors que leurs besoins diffèrent et changent. Et pour une mère de famille, élever ses enfants, donc, on a dit les prendre par la main, les accompagner à chaque âge et leur montrer quel est le bon chemin à chaque âge de la vie pour honorer Dieu et pour honorer le Seigneur. Il y a une expression dans 1 Thessaloniciens, si vous voulez prendre 1 Thessaloniciens chapitre 2. Au verset 7, nous voyons qu'un des caractères du serviteur qu'a été l'apôtre Paul, dans sa conduite au verset 7, il est dit qu'il avait été doux au milieu de vous comme une nourrice chérie ses propres enfants, ainsi vous étant tendrement affectionnés. Élever ses enfants, c'est les accompagner à chaque âge de la vie, leur montrer le chemin qui est approuvé par le Seigneur, un sentier étroit. Et nous voyons que il s'agit aussi de leur manifester, bien sûr, l'affection et l'amour comme une nourrice qui s'occupe de ses propres enfants. Il est parlé des nourrices dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, en particulier dans la Genèse. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a un danger actuel en relation avec le fait d'élever des enfants et du rôle de la maman, du rôle de la mère dans le foyer chrétien. Pourquoi? Parce que nous voyons de plus en plus que souvent le salaire du mari est insuffisant et il y a besoin quelquefois d'une aide complémentaire. Et donc le danger qu'on peut trouver maintenant, c'est que la tendance, c'est qu'il y a certaines mères dans cette nécessité d'avoir une profession, eh bien peuvent être amenées à confier leur enfant à d'autres personnes. Et donc, nous savons tous qu'il y a des crèches, et il y a un grand danger actuellement à faire. Et il faut faire très attention à voir si c'est une nécessité à ce que la maman travaille. Et je voudrais dire quand même un passage à propos de Méphibosheth dans l'Ancien Testament. Alors c'est 2 Samuel 4, je pense. Oui, 2 Samuel 4, verset 4. Nous voyons que et Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque le bruit touchant Saül et Jonathan vint de Jisréel. Et sa nourrice l'emporta et s'enfuit. Et il arriva que comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux et son nom était Méphibosheth. On a cité souvent ce passage pour mettre en garde, justement, dans les familles, de confier leurs enfants, en bas âge en particulier, à d'autres personnes. Et on a pu donner cet exemple donc de Méphibosheth qui avait été, peut-être par nécessité, peut-être pas par nécessité, confié à une nourrice. Et nous voyons que le danger était venu de Saül, peut-être pour une question de vie et de mort, et on voit que cette nourrice emporte l'enfant, s'enfuit, et comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux. Et il y eut ainsi des conséquences pour toute la vie, pour Méphibosheth. Je ne veux pas parler, bien sûr, de ce qui est arrivé un peu plus tard à Méphibosheth, comment il a été reçu à la table de David, mais simplement pour signaler que dans une famille, eh bien, il faut être très prudent pour confier des enfants à d'autres personnes. La famille chrétienne, c'est un lieu particulier, le foyer chrétien, c'est un lieu particulier.
Peut-être rappeler à ce sujet ce que la parole nous enseigne de manière générale sur la place que peut désirer une femme, une sœur. Je veux simplement lire dans le chapitre 3 de Genèse. Nous voyons que chapitre 3 de Genèse au verset 16, il y a ce jugement qui est prononcé terrible. Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants et ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Quel jugement terrible. Nous pourrions dire quelle place peu désirable. Mais nous savons que la prérogative de Dieu est de relever ceux qui n'ont pas une place désirable. Nous avons lu Méphibosheth, nous savons que son histoire le en témoigne. Nous voyons que dans cette position, dans cette place que Dieu a donnée, il y a une grande bénédiction à rechercher ce que le Seigneur désire donner à une femme tout en restant à sa place. Je veux illustrer cela avec ce que nous connaissons bien, la deuxième épître de Jean, voilà ce qui est écrit à cette sœur qui a eu des enfants. Verset premier, l'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité. L'ancien à la dame élue et à ses enfants. Et la première chose qui lui est dite, je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Voilà que le désir naturel ou donné de Dieu, de la femme où sa place est vis-à-vis de son mari, puis vis-à-vis de ses enfants, comme nous l'avons vu ici dans le chapitre 5. Mais quelle place merveilleuse et l'apôtre Paul parle tout de suite de cela, de ce qui occupait le cœur de cette dame élue, ses enfants. Voilà, je voulais juste montrer ce qui était dès le commencement, dans le chapitre 3 de Genèse, mais ce que nous trouvons maintenant comme bénédiction donnée par le Seigneur et ce que nous pouvons rechercher.
Donner aussi l'exemple dans 1 Samuel de Anne à propos de son jeune garçon. 1 Samuel, premier chapitre, verset 23. Elkana, son mari, lui dit : fais ce qui est bon à tes yeux, demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. Et la femme demeura, et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Donc nous voyons que Anne s'occupe de son enfant. Et sitôt qu'elle l'eut sevré, elle l'amena avec elle, avec 3 jeunes taureaux et un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena à la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était très jeune. Il faut se souvenir que ce temps de Samuel, c'était un temps de ruine pour Israël, et nous voyons cette femme remarquable, bien qui désire, comme il est dit au verset 28, prêter son enfant à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Dans un temps de ruine, c'est extrêmement précieux aux yeux de Dieu et aux yeux du Seigneur d'élever ses enfants pour Dieu, pour le Seigneur, afin qu'ils puissent remplir, peut-être selon la volonté de Dieu, un service particulier en ces temps de ruine. Et ce qui est remarquable, nous voyons cette femme donc qui s'adresse à l'Éternel, qui priait, qui se tenait devant l'Éternel avec son enfant à côté de lui. Et sans aucun doute, nous pouvons voir en cela l'importance de la prière, du lieu de prière pour les parents et les parents qui sont accompagnés de leurs enfants et ainsi montrer cet exemple de pouvoir se tenir devant Dieu en prière, en supplication et être cet exemple vivant pour nos propres enfants. Donc nous avons vu à propos de ces veuves de plus de 60 ans que d'abord elle a marché dans les bonnes œuvres, elle a été active pour Dieu, deuxièmement elle a été fidèle à son mari, troisièmement elle a élevé des enfants, les siens et d'autres, et elle a pu donner une éducation selon Dieu. Et maintenant, il nous est dit qu'elle a hébergé des étrangers. C'est-à-dire que sa maison était ouverte, une maison hospitalière. L'hospitalité, c'est l'amour pour les étrangers. Et donc, nous voyons là le caractère de cette veuve. Et c'était une veuve qui était dévouée et généreuse. Il nous est dit ensuite qu'elle a lavé les pieds des saints. Nous savons que de ce temps-là, laver les pieds, c'était la place du serviteur, de l'esclave dans les maisons chez les Hébreux. Et nous voyons donc qu'elle a pu faire ce travail d'esclave pour accueillir des voyageurs fatigués. Et cela nous montre un autre caractère de cette veuve, c'est-à-dire son humilité.
On voit aussi ici que cette veuve, dans ses différentes activités ou qualités, elle n'a pas seulement élevé des enfants, mais elle a fait encore plein de choses, d'autres choses qui suivent et qui précèdent. Et on peut peut-être aussi voir là toutes les tâches qu'il y a pour une sœur, hors des enfants. Bien sûr, comme on a rappelé, d'élever des enfants, c'est une tâche toute particulièrement importante, prenante, plein de responsabilités, mais il y a aussi autre chose à faire parmi les frères et sœurs. Donc, comme on vient de dire, l'hospitalité, mais il y a aussi autre chose. Donc, pareil, une fois les enfants sortis du foyer, ne tombons pas dans le piège de se dire qu'il faut à nouveau se trouver une occupation, un travail professionnel. Il y a l'hospitalité, il y a nos frères et sœurs à s'occuper. Donc, il y a de quoi faire. Et encore une fois, par rapport au fait d'élever les enfants, j'aimerais quand même encore une fois souligner que dans nos temps d'aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a des fois besoin que père et mère travaillent. Mais souvent, c'est aussi une question de confort. Et les enfants que Dieu nous a donnés, nous avons pensé à Anne. Elle l'a amené à Dieu pour le lui rendre parce qu'elle lui avait donné, je ne sais plus comment c'est exprimé, mais elle l'avait pris comme s'il lui avait prêté. Donc, les enfants nous sont prêtés, nous devons les élever, non pas pour ce monde, pour une belle carrière professionnelle, mais pour le Seigneur. Et le monde nous pousse à ce que la femme ait la même position que les hommes. Et nous sommes pollués de cela, parce que c'est contraire à la parole, comme nous l'avons lu aussi en Genèse. Et c'est pas facile pour nos sœurs, et dans les foyers, il faut que les couples soient ensemble, convaincus, et luttent pour cela, parce que comme dit, le monde nous pousse dans cette direction, et les parents de Moïse, ils ont gardé l'enfant jusqu'à ce qu'ils pouvaient, et après ils l'ont mis dans cette caisse en bitume. Et aujourd'hui, on risque, quelquefois sous la pression du monde, non seulement de mettre nos enfants dans une caisse sur le Nil, mais de l'amener directement dans la cour du Pharaon pour qu'il soit éduqué par le monde. Parce que il faut savoir que si nous avons parlé de la crèche, si nous n'élevons pas nous, nos enfants, ce n'est pas le monde qui va les élever pour le Seigneur.
Pas si ça a été mentionné peut-être déjà, mais on peut faire un petit parallèle entre ce verset et Proverbe 31, où il nous est parlé de la femme vertueuse et toutes les activités qu'elle a. Et on peut remarquer que, dans un monde... dans le commentaire des proverbes, mais du temps de l'apôtre Paul, les choses étaient relativement similaires encore par rapport à notre temps. Dans un contexte très agricole ou très artisanal, peut-être plus marqué dans un contexte agricole à l'époque, l'activité de l'épouse était au fond, dans un sens, une activité professionnelle dans le cadre de la maison. Si la femme vertueuse de Proverbe 31 nous décrit bien tout ce qu'elle fait, c'est une activité à part entière dans le fonctionnement, pour prendre des termes d'aujourd'hui, d'une ferme. D'une manière très concrète, pour notre temps ou les générations qui sont juste avant nous, combien fréquemment... quand le mari était artisan, qui c'est qui faisait la comptabilité? C'était son épouse, dans bien des métiers. Donc quelque part, la frontière entre une activité domestique, purement domestique, et une activité qu'on pourrait qualifier de professionnelle, il y a un certain flou. Donc quelque part, il faut garder cela en perspective, dans ce regard. Mais dans le cas de Proverbe 31, je voudrais relever juste un verset, qui est dans la conclusion, déjà on peut déjà verser avant, verset 26, « Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la loi de la bonté sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison et ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi, il la loue. » Quelque part là, à la fin de ce verset 10, « Elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation. » Elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. C'est quelque chose qui dépasse largement le contexte de ce que je vais appeler une activité domestique. C'est quelque chose d'une implication dans la vie, la marche des saints dans leur ensemble. Ceux qui sont dans la tribulation, c'est très vaste. On regarde dans les actes ce qui nous est dit de... chapitre 8, non, chapitre 9, verset 36, il y avait à Joppé une femme disciple nommée Tabitha qui interprétée signifie Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Il arriva en ce jour-là qu'étant tombée malade, elle mourut. Un peu plus loin, comme Lydie est près de Joppé, verset 38, les disciples ayant appris que Pierre était dans cette ville, envoyèrent vers lui deux hommes, le priant « Ne tarde pas de venir jusqu'à nous. » Et Pierre se levant s'en alla avec eux, et quand il fut arrivé, le menèrent dans la chambre haute. Et toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant et en montrant les robes et les vêtements, toutes les choses que Dorcas avait faites pendant qu'elle était avec elle. Voilà des veuves qui avaient bénéficié de l'activité de Dorcas, dont il ne nous est pas dit si elle était célibataire, veuve, mariée, on ne sait pas. Il nous disait juste qu'elle était une femme disciple. Et au fond, c'est cette expression de femme disciple et les soins qu'elle manifestait à l'égard de celle qui était veuve, nous sont là une illustration de ce que Paul nous dit dans ce verset 10. L'énumération des choses qui sont mentionnées là, c'est cette activité, on peut dire au fond, que la veuve soit inscrite ayant été une femme disciple. Paraphrasant, on pourrait au fond un peu dire cela. Secourir ceux qui sont dans la tribulation. C'est quelque chose, c'est aussi bien les tribulations liées aux circonstances de la vie. Ça peut être perte d'emploi, ça peut être des besoins divers, une maladie, ça peut être aussi des tribulations liées à la marche de la foi, la persécution. Se faire chasser de là où on est parce qu'on a reçu le Seigneur et qu'on ne veut pas du Seigneur, perdre son domicile, n'avoir pas d'endroit. Ouais. Et c'est une de ces choses que cette veuve a pu faire, ce qui était en son pouvoir.
Si, verset 10, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints. Et il y a cet exemple qui nous est donné dans le livre de Rois, deuxième au chapitre 4, qui parcourt d'autres chapitres de ce livre. Michel avait su dire que ces veuves devaient être disciples, et combien c'est justement enrichissant de voir de tels exemples. Quand on regarde au chapitre 4 de 2 Rois, en commençant au verset 9, c'est une femme, en ce temps-là elle n'est pas veuve, mais la suite nous montrera qu'elle le sera. C'est elle qui discerne le besoin et qui donc en parle à son mari, qui bien sûr est le chef. Et elle dit à son mari, voici, je connais que c'est un homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Et elle énumère les besoins de cet homme de Dieu. Après, nous verrons que cet homme de Dieu va aussi être attentif aux soins de cette femme, lui demandant même de partir et la suite aussi. Et c'est encore pour montrer par là que cette réception des étrangers et ce service des saints, ici c'est littéral, mais il peut aussi être justement ce fait de rafraîchir les saints, de rafraîchir les entrailles des saints, dont de prendre soin, de pouvoir discerner, mais elles n'ont pas attendu d'être dans des situations particulières, mais c'est quelque chose qui s'entretient, qui se développe au fur et à mesure, et cela ne peut se faire que dans cette dépendance-là que chaque sœur, comme chaque frère d'ailleurs, est appelé à avoir et à développer avec le Seigneur. Et bien sûr, après, pour l'exemple qu'on a pris de cette femme de Sunem, la fidélité de Dieu est toujours présente et rencontre toujours après ces femmes qui ont ainsi marché.
On peut se souvenir aussi que dans l'Ancien Testament, il nous est dit qu'il y avait de la lumière dans les maisons des Hébreux. Et dehors, c'était les ténèbres, mais dans la maison des Hébreux, il y avait de la lumière. Un foyer chrétien où le Seigneur a toute sa place, c'est une maison où il y a de la lumière. Il ne faut pas oublier que la lumière, elle vient du ciel. Le soleil est dans le ciel et éclaire. Et donc, une maison qui a de la lumière, C'est une lumière céleste qui est dans la maison. Et si nous nous souvenons du passage de l'Écriture où le Seigneur dit qu'il est la lumière du monde, Jean 8, verset 12, eh bien nous voyons que de telles femmes, dans leur activité ici-bas, dans leur maison, eh bien nous pouvons dire que dans cette maison où a vécu cette veuve, eh bien il y avait de la lumière, une lumière qui vient du ciel, la lumière de la présence divine dans une maison.
Si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, qui a fait cela pour notre Seigneur? Dans Jean 12, nous voyons Marie, une chère sœur, qui a fait cela alors que personne n'avait discerné la situation ou ce qui était dans le cœur du Seigneur. Verset 2, on lui fit là donc un soupier, et Marthe servait, Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Bien sûr que ici c'est plus que cela, plus que rafraîchir, c'était l'adoration d'une âme qui avait passé du temps aux pieds du Seigneur Jésus à écouter ses paroles. Avons-nous ce désir de passer du temps aux pieds du Seigneur Jésus, surtout quand nous disons que nous avons trop de temps? Nous avons dit que dans la maison de l'Israélite, il y avait de la lumière. Eh bien, nous voyons une chose de plus ici. La maison est remplie de l'odeur du parfum. Qui peut faire ça? Qui peut faire cela, sinon celle qui a pris du temps, qui a pris le temps d'adorer les caractères de son Seigneur? Nous savons peut-être par l'expérience, si nous ne le savons pas dans notre tête, que les sœurs sont particulièrement sensibles et savent rentrer bien plus que nous dans les affections de notre Seigneur. Et lorsque nous savons, nous l'avons tous vu, en tout cas je l'espère, quand nous entrons dans une maison particulière où une sœur a l'habitude d'adorer le Seigneur, la maison est remplie de l'odeur du parfum. N'est-ce pas une activité extrêmement précieuse?
On peut peut-être énumérer les qualités d'une telle femme. La première de ses qualités, c'était qu'elle était active, des bonnes œuvres. C'était une femme fidèle. C'était une maison hospitalière, une femme qui était dévouée et généreuse. Elle a lavé les pieds des saints. C'était une femme qui était humble. Elle a secouru ceux qui étaient dans la tribulation. Elle avait plein de compassion et elle était miséricordieuse. On peut peut-être ajouter, je crois que c'est Jacques qui a dit quelque chose tout à l'heure, C'est sans doute un passage qui est en relation avec la persécution, la tribulation. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres sortes de détresse. La persécution, c'est une détresse extérieure. Mais on voit de plus en plus de croyants qui ont des détresses intérieures, qui n'ont peut-être pas la paix avec Dieu, de vrais croyants. Eh bien, il y a des services qui restent encore, peut-être pour les frères, pour les sœurs aussi, vis-à-vis d'autres sœurs. De tels services, eh bien, sont d'une grande utilité aujourd'hui. Et nous voyons que la fin de cette énumération, encore, nous voyons cette femme qui était active encore dans des bonnes œuvres, et donc cette qualité, on a dit active au début, mais c'était une femme qui était diligente. Elle n'était peut-être pas riche extérieurement, mais elle avait une maison qui était ouverte, et certainement qu'elle était riche intérieurement, selon Dieu. Ce qui est important, c'est d'être riche selon Dieu intérieurement et de ne pas être riche extérieurement. Il y a une question qui est posée aussi dans Ésaïe, peut-être chapitre 39, que nous avons peut-être tous besoin de nous poser. Oui, c'est Ésaïe 39. C'est Ésaïe qui vient vers le roi Ézéchias. Je crois que aussi dans le deuxième livre des rois, il y a cette même expression. Verset 4. Ésaïe dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Que voyons-nous dans nos maisons ? Qu'est-ce que le Seigneur voit dans nos maisons ? De l'activité pour lui, de la fidélité à son égard, du dévouement, de la générosité. Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Qu'ont-ils vu dans nos maisons ?
Veuve jeune, mais en tout cas, on voit qu'on pourrait presque dire c'est tout le contraire des veuves qui ont 60 ans et plus.
Je crois qu'en abordant la suite, il faut être prudent de notre regard et ne pas opposer ce qui est juste avant et ce qui suit, le verset 9-10 et les versets suivants. Et garder en mémoire que les versets 9 et 10 viennent après, par exemple le verset 5, celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule, que la veuve soit inscrite, il y a les conditions, mais le premier critère c'est qu'elle soit vraiment veuve. Et on a les versets 8, le verset 8 en particulier, qui va de pair. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incrédule. Le verset 10 et 9 et 10 concernent des veuves qui sont dans la situation où elles n'ont personne qui peut subvenir à leurs besoins. Et alors il y a un certain nombre de conditions qui sont données, et au verset 11 c'est une autre situation qui est abordée. C'est une situation qui est différente, mais qui n'est pas vraiment le contraire de la précédente. Il faut garder aussi, en considérant ces passages, que la situation de veuvage est une situation que personne ne choisit. C'est une situation qui arrive, que Dieu permet. Bien souvent, on ne comprend pas Il y a bien des situations où on ne comprend pas pourquoi le Seigneur donne les choses de cette manière-là. Et maintenant, elle est là. Comment la vivre? Et quelle est la place des proches? Quelle est la place de l'Assemblée par rapport à quelqu'un qui est dans cette situation? Et qu'est-ce qui est de la responsabilité, du domaine, de la personne elle-même? On a déjà évoqué à une réunion précédente que la veuve de plus de 60 ans, c'est lié aussi à une capacité encore à faire quelque chose pour subvenir à ses besoins. C'est une personne qui est âgée, qui n'a plus la même énergie, plus la même force, qui a des capacités diminuées, donc plus facilement dépendante. Alors qu'au verset 11, on parle de veuves qui sont jeunes. Déjà là, il y a un contraste qui est lié simplement à l'âge. Donc, on peut aborder facilement ces versets 11 à 13, avec un certain nombre de clichés qui peuvent être très sévères. Et il nous faut être prudents pour essayer de comprendre ce que l'apôtre nous transmet à travers ces versets et pas passer à côté. Je ne cache pas que je trouve que ce n'est pas des versets faciles à aborder, quoi.
Le sujet des jeunes veuves, c'est aborder un tel sujet, c'est avec délicatesse. Et si ce sont des frères qui enseignent, c'est d'autant plus délicat de parler de jeunes veuves. Et ce sont des situations, bien sûr, lourdes à porter. Et donc, l'apôtre insiste surtout sur les dangers qui guettent ces jeunes veuves.
226.